notion de la carte complète et bâtie autour de la notion de style, l'aspect un peu rétrospectif.
Ce que je vais faire, ça marche là? Oui, vous entendez?
Je pense. Ah, je dois aller m'occuper de.
Alors, est-ce que ça marche?
Il faut parler plus.
En fait, il faut carrément.
Merci. Donc, oui, ce que je vais vous dire ne correspond pas, comme d'habitude, tout à fait au résumé que j'ai délivré, mais c'est pas grave. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps, même si en fait le titre Continuité-rupture correspond un peu à une hésitation de ma part, à un balancement que je n'ai pas vraiment pu résoudre. Donc, je voudrais prendre comme point de départ, vous voyez, cet ouvrage classique sur la cartographie de Roger Brunet, hein, qui date de 1987, dans cette période pionnière de ce qu'on appelait à l'époque la cartomatique, un terme qui a un peu disparu. C'est un ouvrage que, pour ceux qui le connaissent, vous savez, il est très illustré et composé de très brefs chapitres thématiques. Et l'un d'entre eux s'intitule « Les nouveaux visages de la carte ». Et malgré, en fait, ce titre, Brunet constate que, selon lui, si l'informatique a changé quelque chose, eh bien, sans doute, c'est la partie visuelle qui a le moins évolué. Je vous ai mis quelques extraits du texte hein, pour que vous puissiez constater. Dès la première phrase, vous voyez, l'apparition de la cartomatique a fait éclore des sujets cartographiques nouveaux, mais n'a guère changé l'aspect de la carte. Donc Brunet développe en disant qu'au contraire, souvent la cartomatique a entraîné un enlaidissement de la cartographie. Et à la fin, vous voyez ce que j'ai souligné en jaune hein, dans le troisième paragraphe. En fait, on ignore complètement si d'autres formes sont réellement possibles, si la carte peut prendre d'autres visages. Il est curieux de constater que beaucoup de géographes et de cartographes en rêve écrivent sur le sujet et tiennent colloque sur colloque sans avoir pu émettre la moindre proposition tangible. Ce rêve d'un nouveau visage de la carte n'est peut-être qu'un fantasme à changer de paysage. Et Brunet termine en disant que l'informatique a changé beaucoup de choses dans tout le processus de production des cartes, mais que, selon lui, les visages, je trouve assez belle cette expression, le visage de la carte a été peu modifié. Alors bon, Brunet exagère un peu parce qu'évidemment, il n'y a pas eu colloque sur cette question, mais c'est vrai que c'est une question qui est restée ouverte, comme le démontre notre réunion d'aujourd'hui. Et depuis ce texte classique, bien d'autres auteurs ont évoqué le sujet. Je pense en particulier à Jacques Lévy qui a repéré au début du XXIe siècle ce qu'il a appelé un tournant cartographique. Hein. Et malgré tout, le tournant qu'il nous présente au niveau des méthodes, il apparaît davantage comme un vœu que comme une réalité. Lévy nous engage à changer la cartographie pour exprimer ce qu'il désigne comme de nouvelles spatialités, mais les solutions qui sont proposées sont loin d'être inédites, et d'ailleurs elles s'éloignent assez souvent de la cartographie pour par exemple se tourner ou s'orienter vers des formes de graphes hein, comme celui que vous voyez ici. Donc je voudrais laisser ouverte cette question du tournant ou du nouveau visage. Bon, bien sûr, elle est essentielle, mais c'est le thème de notre journée, donc je ne voudrais pas apporter de réponse définitive, bien sûr, dès le premier exposé. Je ne sais même pas si j'en serais capable, mais je voudrais me focaliser donc sur les cartes statistiques pour analyser les éventuels changements qui ont affecté cette forme de cartographie. J'ai limité ma chronologie à 1980, mais vous verrez, je parlerai de cartes plus récentes. Il reste que dans le foisonnement contemporain de la cartographie numérique, je ne peux pas affirmer que je connais tout, et donc connaître en particulier toutes les nouveautés. Donc je pense que d'autres auront des réponses à apporter là-dessus, sans doute meilleures que les miennes. Alors, je me suis fondé, vous voyez, sur un ouvrage classique, un manuel récent, hein, anglophone, de cartographie, celui de Crack et Hormeling, hein, de ponte dans notre discipline. Et on y trouve une planche qui résume, selon eux, les grandes catégories de cartes statistiques. Bon, les auteurs en distinguent 7, hein, vous en voyez 9 parce qu'il y en a qui sont répétés hein, sur l'image. Ils montrent en même temps les correspondances d'un mode à un autre. Et ces 7 catégories bon, correspondent à des choses qu'on connaît. On y trouve les cartes par points, on y trouve les cartes par figurées proportionnelles, ponctuelles ou bien linéaires, les cartes de flux. On y trouve des cartes par isoligne et bien sûr par plage de couleurs ou de valeurs, choroplète, enfin chorochromatique ou choroplète. Donc à partir de là, il serait facile de montrer toute l'ancienneté, bien sûr, hein, de ces méthodes. Hein, et bon, ce que j'ai pu faire il y a longtemps dans ma thèse, je vais le résumer ici en deux exemples, puisqu'on voit en 2010, finalement, est présenté un langage contemporain de la cartographie statistique, qui en fait donc s'est forgé principalement, essentiellement au 19e siècle. J'en donne simplement deux exemples. Bon, vous voyez, en haut à gauche, vous avez le petit figuré extrait de la page de Crack et Hormeling, et puis des exemples anciens. Donc la carte choroplète qui a été imaginée dès 1826 par un polytechnicien, le baron Dupin, et qui est très fréquente tout au long du 19e siècle dans la statistique morale ou sociale, et qui, vous le savez, reste aujourd'hui encore la méthode qui a peut-être une proportion écrasante, en fait, des illustrations sont faites selon cette méthode. Alors, un deuxième exemple, ce serait celui des figurés proportionnels, donc toujours en haut à gauche, le petit schéma de Crack-Hormeling, hein, qui nous montre ces figurés disposés selon des zones. Donc, je vous ai mis deux exemples, hein, pour montrer un peu l'ancienneté de la chose. Alors, à droite, vous voyez la carte d'un ingénieur anglais, Henry Harness, hein, 1838, qui donc à la fois fait des flux et puis montre population des agglomérations par des cercles proportionnels. Puis un exemple qui est un petit peu moins connu, Léon Montigny, c'est en bas à gauche, qui utilise les figurés proportionnels pour une carte électorale en 1869. Et en même temps, il y ajoute une variation de couleur, c'est-à-dire ça tend un petit peu vers ce qu'on appellerait des cartodiagrammes au cours du 19e siècle. Alors, je ne prends pas d'autres exemples, mais même des procédés comme les anamorphoses, les isolignes ou les cartes par points, sont aussi anciens, même si bien sûr ces procédés sont plus rares. Et puis je voudrais vous montrer que même l'effet 3D, hein, qui est quelque chose qui est très commun aujourd'hui, apparaît au moins, alors je n'ai pas fait de recherche précise sur le sujet, mais apparaît au moins depuis l'entre-deux-guerres. On a un fameux cartographe américain d'origine hongroise, Erwin Reis, hein, qui, vous voyez, utilise cet effet 3D pour montrer des valeurs statistiques. 1938 pour la première carte. En bas à droite, une forme de cartogramme en relief avec effet 3D de 1944. Donc on retire de tout ça l'impression d'une grande continuité graphique dans les méthodes, hein, en tout cas dans les principales méthodes qui sont présentées aujourd'hui dans les manuels de cartographie. Alors en réalité, bien sûr, c'est une impression qui est sans doute à nuancer, hein, je vais essayer de montrer dans quelle mesure on peut le nuancer. Alors d'abord, on peut le nuancer parce qu'il a existé d'autres méthodes qui ont été en usage, mais qui ont été en usage souvent de façon temporaire, sur quelques décennies, avant de s'effacer, je dirais, de façon plus ou moins définitive. Alors là encore, je voudrais prendre des exemples. Le premier exemple, c'est celui des centres statistiques. En fait, le procédé est inauguré dans une carte de Charles-Joseph Minard, qu'on connaît bien pour la cartographie des flux. Dans une carte de 1865, Minard détermine le centre de gravité de la population parisienne. Hein, donc les carrés noirs représentent en fait des quantités, alors je ne sais plus si c'est la population ou les lettres qui sont distribuées dans les différents arrondissements, enfin quartiers en fait. Hein. Mais ce que veut faire Minard, c'est déduire le meilleur emplacement pour construire un hôtel des postes. Donc, Minard, vous voyez, alors je l'ai entouré ici, et il présente, c'est les points qu'il a pu identifier, donc le point A, c'est où est situé l'hôtel des postes, le point B, le centre de gravité de la population, le point C, le centre de gravité du courrier qui est reçu dans les quartiers. Et puis enfin, le point D est la proposition de construire le nouvel hôtel des postes. Alors, les points sont assez discrets sur la carte, mais en fait, cette méthode, on la retrouve notamment à la fin du 19e siècle dans les atlas statistiques américains. Vous la voyez ici, un atlas de 1890 qui nous montre le déplacement du centre de population des États-Unis. Un déplacement qui se fait d'est en ouest, hein, parce que, évidemment, avec le peuplement du continent, le centre de gravité se modifie. Et vous pouvez voir de recensement en recensement comment bouge ce centre statistique. C'est quelque chose qui va être très à la mode dans l'entre-deux-guerres. Il existe en Union soviétique une école de centrographie, l'école de Leningrad, qui multiplie les analyses fondées sur les centres de gravité statistiques et la façon dont ces centres bougent hein, au cours des périodes. Et on a, vous voyez ici, sur un article donc, d'un de ces auteurs soviétiques, une série de centres de gravité, alors de la population, des populations actives de l'industrie, certaines cultures agricoles, etc. On voit tous ces centres qui sont assez mal différenciés d'ailleurs, mais la manière dont ils bougent sur un territoire au cours des périodes. Alors sachez qu'il y a eu un bref retour de la centrographie dans le cadre de la New Geography dans les années 50. Hein. Mais bon, voilà une méthode qui n'est pas vraiment aujourd'hui très utilisée, a plutôt disparu. Alors, je vais arriver à quelque chose qui est sans doute plus familier. Ben, ce sont les fameux points Bertin. On a là aussi quelque chose qui est confus dans les années 1960. Bertin les présente dans un article de 1966, dans une revue qui s'appelait Mathématiques et sciences sociales. Alors, il imagine donc un semi-régulier de cercles croissants. Et pour Bertin, ce semi-régulier, ce qu'on appellera les points Bertin, hein, ça sert à exprimer des quantités par R ou par zone. Le système permet à la fois, d'après Bertin, une perception zonale, puisque en fait, ça peut avoir un peu un effet assimilable à des paliers de valeur. Mais en plus, selon lui, ça permet aussi une perception quantitative par le comptage des points, ce qui est d'ailleurs discutable, mais bon, revenons pas là-dessus. Malgré la grande lisibilité hein, du procédé des points Bertin, je dirais qu'il ne s'est pas durablement implanté en cartographie. Il a été surtout développé, je dirais, jusqu'aux années 70, peut-être 80 à la limite. Alors, remarque... À l'issue de ces exemples, au-delà de l'apparente continuité des méthodes de cartographie statistique, il y a bien des évolutions, il y a bien des innovations. Elles sont souvent temporaires, elles sont un peu comme des modes hein, qui dureraient quelques décennies. Et on pourrait renvoyer à ce sujet à la théorie sémiotique générale, parce que les sémioticiens remarquent qu'il est toujours difficile de créer, de concevoir et de comprendre également des procédés nouveaux qui rompent avec les habitudes de perception. Autrement dit, la continuité s'expliquerait par le fait que, justement, on a intérêt à exploiter des habitudes perceptives pour que le discours passe bien. Hein. Alors, du coup, un certain nombre de procédés apparaissent qui sont souvent ingénieux, mais qui ne s'imposent pas, ne se diffusent pas, ou sont insuffisamment repris pour s'implanter. Hein. Je pense encore, vous voyez, à ces cartes-là qui ont été inventées par Alain Lostis, que j'avais trouvé à l'époque extrêmement ingénieuse. Elle a été présentée dans sa thèse de 1997 et il s'agissait de figurer, en fait, de faire ce qu'il appelait des cartes en relief d'espace-temps, hein, c'est-à-dire de comparer différents modes de transport par cet effet de relief. Et bien que ce soit une méthode quand même... tout à fait innovante, enfin, à mon sens. Hein. Qui a repris Alain Lostis? Alors, je ne sais pas, moi, à ma connaissance, personne. Donc, pour que ce soit le cas, pour qu'une méthode soit reprise suffisamment largement pour instaurer des habitudes de lecture, en fait, il faudrait que peut-être elle ait des qualités intrinsèques immédiates. Et bon, toujours est-il qu'il y a beaucoup, vous voyez, d'impasse en fait dans cette cartographie statistique. Alors qu'est-ce qui change finalement, à part ces méthodes un peu temporaires, qu'est-ce qui change dans la cartographie statistique sur la période qu'on considère? Alors pour moi, il y a une première évolution qui est tout simplement celle du recours à la cartographie statistique. Hein. Parce que selon les périodes, on se rend compte, et selon les disciplines, on se rend compte que la cartographie statistique est utilisée plus ou moins. Quand j'ai fait mon étude historique, j'avais défini ce que j'appelais une période de l'enthousiasme pour cette cartographie, à peu près entre 1860 et 1900. Et puis après, en fait, dans les publications officielles, la cartographie statistique disparaissait. On lui préférait la statistique tabulaire, les tableaux de données. Et finalement, ça reparaît dans les années 60, 1960. Donc on voit qu'il y a aussi des balancements dans le recours à la carto. D'ailleurs, en géographie, on pourrait dire la même chose, il y a aussi un tournant des années 60 avec la révolution quantitative qui fait que la cartographie statistique va prendre une place grandissante. L'autre évolution, c'est bien sûr la part des différentes méthodes. La carte coroplète, elle a toujours eu une place écrasante, mais les autres procédés ont eu une part variable. Je prendrai l'exemple des cartes par points. Alors, les cartes par points que les anglo-saxons appellent les dot maps, hein, souvent d'ailleurs utilisées pour montrer la population. En fait, elles sont inventées en 1830, mais déjà il va falloir attendre très longtemps avant de trouver une deuxième application, qui est celle que vous voyez ici, 1859, hein, par un Suédois. Bon, je ne connais pas tout de la cartographie, mais il me semble qu'en fait le procédé il s'est surtout développé au XXe siècle, hein, pour la population, et après les années 1950 en fait, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit un certain regain des dot maps, hein, qui s'appuie sur du big data en particulier, hein. Je voulais vous montrer un exemple récent, vous voyez, c'est une carte du recensement issue du recensement américain, qui va jusqu'à montrer un point pour un habitant. Hein, sur ce site, ça veut dire que les cartes recensent 309 millions de points, hein, qui sont en fait de taille étant en réalité inférieure au pixel, hein, donc c'est pas visible. Vous voyez un agrandissement et on y a ajouté une variation de couleur, hein, ce qui fait que la dot map s'enrichit en fait ici des origines ethniques, hein, de la population. Et vous voyez, c'est une réalisation qui montre un certain renouveau de la dot map dans le cadre de la carto numérique. Alors, de la même façon, la révolution numérique a rendu plus facile des procédés qui étaient complexes à réaliser, les lissages statistiques, les cartes avec effet 3D. Alors, j'ai pris un exemple pour rendre hommage à Hélène, et un autre pour rendre hommage à Laurent Jégou qui est ici. Hein. Donc vous voyez qu'effectivement, avec la révolution numérique, l'effet 3D est bien entendu un procédé, hein, qui se diffuse. Mais alors, je voudrais vous montrer qu'il y a d'autres exemples d'évolution de méthode. C'est le cas en particulier de la part du figuratif. Hein. Je terminerai avec cet exemple-là pour vous dire que, en fait, dans l'entre-deux-guerres, plusieurs ouvrages ont permis un renouveau du pictogramme, hein. Et en particulier donc l'ouvrage d'un autrichien, Otto Neurath, d'un philosophe autrichien, Otto Neurath, qui voulait créer un langage international simplifié qu'il appelle les isotypes. Et on voit dans l'entre-deux-guerres en fait se multiplier des cartes de ce genre. Alors bien sûr, dans l'atlas de Neurath, là c'est la récolte, ouais, c'est la production de pommes de terre, hein, au niveau mondial, mais aussi dans d'autres atlas de la période. L'exemple d'un atlas d'Alexandre Rado, ici, de 1938, dans lequel on voit les flottes militaires des différents pays, hein, représentées en fait par des petits navires multipliés pour montrer l'importance du procédé. Voilà, donc il y a des choses qui changent dans les proportions des méthodes, dans des espèces de modes, hein, de certaines méthodes qui peuvent en fait tenir quelques décennies, puis ensuite peut-être diminuer, même si ces méthodes figuratives, en fait, il me semble qu'elles sont encore très présentes dans la cartographie de la presse, hein, dans l'infographie, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé des débouchés aujourd'hui dans une cartographie de vulgarisation plus destinée à un plus grand public. Alors, je termine avec cette idée. Vous voyez, j'avais prévu de développer ça dans le résumé, mais je termine avec, parce qu'en fait, c'est une idée assez compliquée, sur laquelle il faudrait réfléchir plus longuement. On a donc récemment essayé de formaliser la notion de style cartographique à propos des cartes topo. Ce sont des travaux faits par Sarah Fabricant, Sidonie Christophe, Jérémy Horry, etc. Et donc, l'idée étant de caractériser des styles qui reposeraient sur trois dimensions, les pratiques cartographiques, l'intention des cartes et enfin l'apparence visuelle. En fait, les études dont je parle et qui sont mentionnées au-dessus sont surtout concentrées sur l'apparence visuelle. Alors, évidemment, je trouve que appliqué aux cartes statistiques, ça serait intéressant d'utiliser ce concept, hein, puisque si les méthodes montrent une certaine permanence, la cartographie statistique a connu des ruptures de style, bien entendu, qui pourraient faire l'objet d'analyses, et notamment, bien sûr, la fameuse rupture du numérique. Alors, les éléments à prendre en compte seraient assez différents, hein, puisque pour la topo, les auteurs prennent en compte les éléments topographiques comme le bâtiment, le réseau hydrographique, etc. Pour nous, évidemment, on pourrait s'intéresser au type de gamme, au type de couleur, avec des variations de choix qui ont été très notables quand on est passé du papier aux écrans. On pourrait aussi interroger les formes qui sont mobilisées par cette cartographie. Cercle, carré, rectangle, triangle, etc. La répartition 2D, 3D. On pourrait aussi, au niveau des styles statistiques, s'intéresser à la couleur associée à certains thèmes, hein, avec par exemple la population, elle est souvent en rouge, ou des choses comme ça, hein, la couleur des thèmes, les textures, le nombre de symboles qui sont retenus. Bref, il y aurait sans doute une possibilité, au-delà donc d'une certaine permanence des méthodes, de repérer des changements de ce qu'on pourrait qualifier de style statistique. Reste la question des pratiques et de l'intention du message du cartographe, hein, qui, peut-être en tout cas pour ce qui est de l'intention, pour nous, pourrait recouper des formes de cartographie, soit savantes ou académiques, éventuellement liées aux médias de grande diffusion, voire liées à des pratiques pédagogiques. Hein. Là encore, on pourrait différencier des styles selon ses intentions des cartes statistiques. Voilà, alors, je suis embarrassé pour conclure parce que je ne peux pas répondre par un simple choix entre rupture ou continuité. Hein. Il y a bien sûr des permanences dans la cartographie statistique, comme d'ailleurs dans la topographie, on le sait. Les méthodes de base apparaissent en nombre limité. Elles sont une sorte d'invariant, je dirais, pour reprendre un terme de Bertin, hein, qui peut être éventuellement enrichi. Et malgré tout, il y a des changements importants. Les cartes n'ont plus le même visage. Il serait caricatural d'assimiler la production actuelle à celle de la fin du 19e. Et au-delà des méthodes, il faut sans doute repérer un certain nombre d'éléments commutables qui montrent bel et bien des évolutions. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
César Ducruy, vous c'était pour revenir, si possible, au premier, à la première diapositive, parce qu'il paraît que le slide, ça
s'est éliminé, je suis désolé.
En France. Oui, et donc, sur ce que disait Brunet sur le fait que ce n'est pas la technique qui forcément, en elle-même, transforme la représentation ou la carte, c'est l'utilisateur. Et ça me fait un peu rire, parce que, autant... je suis un fervent défenseur, enfin, on peut dire ça comme ça, de la corématique. Je trouve que ça peut être très bien fait, mais souvent c'est l'utilisateur qui ne sait pas s'en servir ou qui n'a pas compris le but de la corématique ou la philosophie de la corématique. Donc est-ce qu'on n'est pas là, on ne se heurte pas à un problème qui n'est pas la carte ou comment est-ce que c'est une bonne carte ou une mauvaise carte, c'est comment on forme les cartographes et comment on transmet oralement ou par écrit les méthodes ou les principes. Parce que bon, Bertin, on connaît tous, mais bon, moi je prends l'exemple de la corématique, c'est un échec cuisant dont on va mal se relever, et c'est bien dommage parce que il y a beaucoup d'anglo-saxons qui ont compris la valeur de la corématique, et nous en France, on l'a quasiment oublié. En fait. Et il y a eu un gros problème sur justement qu'est-ce qu'une carte modèle. Pourtant, c'était bien expliqué dans les livres. Mais ce qui manquait chez Brunet, peut-être, c'était de clairement donner de faire un manuel ou de donner des méthodes. Voilà. Donc, moi, la question, c'est plutôt ça. Hein, c'est comment on transmet les savoirs, les pratiques.
C'est compliqué. Vraiment, je ne suis pas sûr que. Enfin, Brunet est critique, je pense, ce qu'il appelle dans le texte les personnes inexpérimentées. Enfin, c'est-à-dire, au début de la cartomatique, il y avait peut-être une certaine coupure entre, je dirais, le monde de la carto et celui des informaticiens. Donc, il y avait effectivement beaucoup de cartes de mauvaise qualité ou des applications. De mauvaise qualité, quoi, de ce qui pouvait être fait du point de vue de cartographie numérique. Hein. Alors effectivement, bon, de toute façon, la question de l'éducation au visuel, de l'éducation aux méthodes, oui, d'accord avec toi, c'est une question clé. Hein. Mais je ne suis pas sûr que le texte de Brunet, en fait, il allait vraiment dans ce sens-là. Je n'ai pas trop saisi ce que tu voulais dire là-dessus. En fait, ce que dit Brunet, c'est que d'après lui, les meilleures cartes étaient celles qui ressemblaient aux cartes faites à la main. Hein, dans le texte. Donc, mais on n'est qu'en 87, hein. C'est pas tout à fait. Et à l'époque, évidemment, il y a davantage de scories peut-être qu'il y en a aujourd'hui, quoique.
Voilà. Une autre question ? Réflexion ? Réponse ?
Moi, j'ai une.
Ah, pardon, excuse-moi.
Je voudrais juste revenir sur la question du classement des cartes. La question du classement des cartes, puisque tu présentes ce tableau qu'on retrouve dans les manuels de carto dans le monde anglo-saxon, mais aussi dans le monde francophone, sur les types de graphiques ou les types de cartes. Et hier, j'ai téléchargé du Financial Times un espèce de grand PDF dans lequel il classe tout. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de cette tendance qu'on a à toujours vouloir tout mettre dans des petites boîtes, parce qu'au fond il y a des cartes par points, il y a des cartes en bande, mais globalement quand on fait de la cartographie complexe, on utilise plein de modes de représentation divers et variés, qu'ils soient surfaciques, linéaires, etc., et on les mélange. Donc je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'utilité de ces classements? Et je fais juste référence à un grand panneau qu'on a vu en rentrant dans le musée d'art moderne à Vienne, le Paul, où ils disent ne vous attendez pas à trouver des salles classées par date et par artiste ici, on a tout mélangé pour que vous puissiez vous perdre dans le monde de l'art. Et effectivement, c'était très déstabilisant. Mais on a cette tendance, et est-ce que cette tendance n'est pas un peu réductrice pour la création et pour aller plus loin?
Oui, enfin, je pense que c'est un tableau qui figure dans un manuel, donc c'est effectivement à destination d'étudiants, hein, du supérieur. Donc c'est simplement une façon. Je dirais un peu analytique de présenter les choses. Hein. On présente les méthodes séparément de façon analytique, puis après, si ces étudiants deviennent cartographes professionnels, je pense qu'ils auront l'esprit de les associer différemment. Hein. Mais je pense que ça a simplement une vocation pédagogique, hein. Dans le cas présent. Voilà. C'est tout ce que je peux répondre. Je sais pas, mais...
J'ai pas assisté au début, mais j'ai assisté à la fin. Vous parlez de rupture en lien avec le numérique. Moi, c'est une question qui m'intéresse. C'est une rupture pour vous, avec votre expérience, votre bouteille sur la carte méthodologique, technique, d'usage. Est-ce qu'on a atteint pour vous un point de non-retour aujourd'hui avec le web, ou c'est quoi votre positionnement là-dessus, en fait?
Ce que je disais tout à l'heure, enfin, j'ai plutôt abordé la question un peu à la fin, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une certaine continuité, finalement, dans des méthodes de base. Hein. Bon, on montrait que même des méthodes utilisées de façon plus courante aujourd'hui, comme les anamorphoses ou les 3D, ben, ça existe au 19e. Et que si on observe des ruptures, elles seraient notamment des ruptures de style. Reste à définir ce qu'est un style. Hein. Et donc à la fin, je donnais quelques éléments pour essayer de... Bon, mais un simple élément clair et simple, ce serait les couleurs, bien entendu. Hein. Le mode écran des couleurs est totalement différent de ce qui pouvait être produit manuellement. Donc, je pense que s'il y a des éléments de révolution numérique, on peut les rechercher dans ces ruptures, dans la proportion des différentes méthodes, puisque certaines deviennent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, et puis dans des styles cartographiques qui, évidemment, est une proposition théorique qui a été faite pour la topographie.